Musique en lutte.
Musique en lutte.
Enfin, les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Des gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
1, 2, 3, 4. Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Radio Libertaire pour l'émission Musiques en lutte. Pour démarrer cette nouvelle saison avec vous, nous avons décidé de vous parler de la Free Party. Pour cela, nous accueillons Renard, membre de l'ancien sound system l'AHP et membre de divers autres collectifs en lien avec la Free Party. Avec lui, nous allons donc discuter de l'historique, de l'auto-organisation du mouvement et voilà, d'autres choses qui gravitent autour de ce sujet.
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Ok, bonjour Renard.
Super, bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Donc avec toi, on va parler de pas mal de sujets autour de la Free Party. Et on va commencer, pour ceux qui connaissent plus ou moins la genèse et l'historique de ce mouvement, d'où ça vient, comment c'est venu. Grosso modo, d'Angleterre, c'est arrivé en France dans les années 90. Alors, il y a eu tout un déroulé, une évolution de ce mouvement. Donc peut-être tu peux nous raconter brièvement un peu d'où ça vient.
Alors le concept de sound system, parce que la Free Party elle est inhérente, il y a un concept inhérent qui est le concept du sound system, du crew, quoi, de l'équipe qui va organiser des soirées, qui est responsable du son. Ce concept-là, il vient de Jamaïque et là-bas, il y avait des groupements déjà de sound system qui sortaient des enceintes et qui diffusaient de la musique. Donc ce concept de tribu un petit peu qui se réunit autour de la diffusion de la musique, il préexiste au mouvement Free Party et au mouvement techno. Mmh. Donc c'est un truc, c'est pas un truc qui est récent. Je n'aurais pas donné une année parce que je sais plus si c'est les années 50-60, mais ça arrive assez tôt, peut-être un peu plus tard, ou peut-être 70, je sais pas dans le cadre, mais ça arrive quand même relativement très tôt, bien avant l'apparition de la techno, du mouvement techno Free Party. Hein. Donc, donc déjà, il y a des premières étapes historiques qui préexistent à ça. Le modèle Free Party tel qu'on le connaît en France, il est principalement issu d'Angleterre, puisque c'est juste avant Margaret Thatcher, il y avait pas mal de cette culture de sound system qui faisait des soirées techno. Et quand Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir, elle a extrêmement durci les lois de manière très draconienne contre ces fêtes qui étaient des fêtes non déclarées. Donc c'était des fêtes qui n'étaient pas forcément illégales, puisque ce n'était pas encore inscrit dans les textes de loi, mais c'était des fêtes qui s'organisaient pas dans le cadre normal d'un événement festif organisé avec l'État.
Dans les années 80, ça, en gros.
À l'époque de Thatcher. Je sais plus les dates exactes de Thatcher, mais oui, c'est toutes les années 80. Je ne sais plus en quelle année elle est arrivée au pouvoir.
Ouais, j'ai un petit doute aussi. C'était fin 80, il me semble, des années 80.
Ouais. En tout cas, au début des années 90, il y a plein de lois qui ont été passées en Angleterre, qui sont des lois hyper restrictives, fin 80, début 90. Mmh. Et du coup, à partir de là, les sound systems, les tribus, les crews qui organisaient les fêtes en Angleterre, ils commencent à se dispatcher un petit peu en Europe. Ils partent, c'est aussi lié un petit peu au concept de traveler, quoi, avec des camions, parce qu'en général, un sound system, c'est des camions pour transporter des enceintes, et c'est aussi des camions dans lesquels les gens vivent, parfois, sont des travelers, et du coup, quand tu vas faire une fête à la campagne pendant 48 heures, t'as beaucoup de gens qui ramènent aussi leurs camions dans lesquels ils vivent. Mmh. Et du coup, il y a une partie du public, alors tous les travelers ne sont pas des tuffeurs techno, évidemment, et inversement, tous les tuffeurs techno ne sont pas des travelers, mais il y a quand même un lien entre ces deux communautés, puisqu'il y a beaucoup de travelers qui viennent en teuf. Du coup, ils sont partis un petit peu sur les routes d'Europe avec leurs camions, les sound systems, notamment un célèbre qui est les Spiral Tribes, quoi, qui est un sound system anglais. Et ils sont venus un petit peu montrer, diffuser dans différents pays, dont la France, leur méthode, leur modus operandi, leur processus, leur manière de faire de la teuf, c'est-à-dire d'arriver quelque part sur un terrain libre, une friche, un champ, une usine désaffectée, et là de sortir le sound system, d'inviter les gens grâce à un système d'infoline. et de jouer un peu au chat, à la souris avec les autorités, parce qu'évidemment, c'est des fêtes qui ne sont pas déclarées. Alors, il y a un cadre légal en France qui entoure ces fêtes, donc on va en reparler, je suppose.
Ouais, on va reparler dans le détail de ce que tu viens de dire.
On va rentrer un petit peu dans le détail de ça, mais en tout cas, les Spiral Tribe et d'autres sound systems se répandent un petit peu à travers l'Europe, et ils font des émules un petit peu en France, en Espagne, en Allemagne, pas mal dans les pays de l'Est aussi, en Tchéquie notamment, où ça avait bien pris à l'époque. En Roumanie, ils vont se balader aussi, et le modèle a particulièrement bien pris en France, parce qu'il y a pas mal de sound systems qui se sont montés, du coup, dans les années 90, et pas mal de sound systems qui ont adopté ce modus operandi. Dans cette première phase, ça se voulait assez apolitique, quand même, comme mouvement. C'était un peu, tout le monde vient comme il est, et on fait pas réellement de politique, on porte pas de revendications explicites. Néanmoins, dans la pratique, c'était des fêtes libres, c'est-à-dire des fêtes ou sur donation à l'entrée. Du coup, il y avait quand même une certaine pratique politique au sens de gestion de la vie publique, quoi, même s'il n'y avait pas forcément de revendications explicites. Alors, il y avait sans doute des sound systems qui étaient déjà engagés sur des revendications politiques et qui faisaient du militantisme par ailleurs, mais c'était pas une notion forcément centrale exprimée de tous les sound systems. Il y avait plein de sound systems pour qui c'était juste faire la fête et offrir un espace un petit peu de décompression aux gens. Et où il n'y avait pas forcément de règles établies, et où les gens pouvaient se comporter un petit peu comme ils voulaient. Donc tu voyais, notamment à cette époque, dans les sound systems d'Angleterre, c'était une foule très bigarrée, avec plein de gens de styles différents, qui pouvaient porter plein de couleurs, etc. Des trucs arc-en-ciel, des gens qui s'habillaient un peu, qui se déguisaient, qui faisaient la fête, etc. etc. Cette partie-là, elle s'est un petit peu estompée dans la pratique française de la free party. Et ailleurs aussi, mais bon là je pense qu'on va
encore que j'ai l'impression que ça reprend un peu avec une nouvelle génération de gens, en tout cas
il y a toujours quand même des tenues vestimentaires un peu kaki à la militaire, parce que tu vas dans les champs et c'est pratique d'avoir le baggy. Il y en a toujours un petit peu, évidemment qu'il y a des gens qui peuvent se déguiser et venir n'importe comment, et c'est des endroits qui portent une certaine notion de liberté et de non-jugement. Donc il y avait quand même cette idée, même si tous les sound systems ne le pratiquent pas forcément toujours aujourd'hui, mais il y avait quand même, dans la philosophie générale transportée par ces fêtes libres, il y avait le fait que ce soit libre et que tu puisses venir un petit peu comme tu veux, et qu'on n'était pas là pour te juger, dans la théorie. Évidemment, dans la pratique, c'est encore une autre histoire, quoi, parce qu'il y a des gens qui se réclament de cette philosophie, mais ils ne l'appliquent pas forcément, il y a des gens qui essayent de l'appliquer, il y a aussi des enjeux de stratégie autour de l'application de ces philosophies, parce que c'est pas évident de faire passer ces messages auprès du public. Je pense qu'on en reparlera un petit peu par la suite. Donc voilà, donc dans l'historique début des années 90, ça fait des émules, il y a plein de sound systems qui se montent, et c'est un petit peu désorganisé. Alors il y a quelques tentatives, il y a des collectifs qui se montent parfois par région, des collectifs aussi qui essayent de se monter à un niveau national, et de discuter entre eux. C'est aussi les débuts d'Internet, donc il y a aussi des messageries qui commencent à tourner, il y a des sites qui sont faits pour parler un petit peu de tout ça. Et il y a des tentatives de coordination nationale, de réunion en tout cas des différentes composantes d'appels libres qui sont faits sur les réseaux en disant voilà, on fait une réunion à Paris ou en Provence et on va parler des sujets un petit peu des sujets politiques. Comment est-ce qu'on peut se coordonner en tant qu'acteur du milieu de la free party pour réagir face à la répression, notamment parce que évidemment c'est des fêtes non déclarées, donc même s'il n'y a pas vraiment de cadre légal encore à l'époque, mais comme c'est des fêtes non déclarées, la police trouve évidemment plein de moyens d'arrêter, y compris par la force. Et du coup, il y a un jeu de rapport de force et de jouer au chat et à la souris, évidemment, pour que ça se passe. Du coup, les premières tentatives de coordination, elles sont pas forcément faciles, elles sont pas soutenues par tout le monde, parce que t'as un tas de gens qui disent non, nous on s'en fout, on veut juste faire des teufs, c'est tout. L'entente, elle est pas forcément toujours au beau fixe dans ces collectifs, et il y a pas forcément réellement d'objectifs ou de trucs comme ça qui est explicitement défini, donc c'est assez difficile, c'est une mise en place qui est pas forcément évidente. Donc ça va évoluer. Alors là, je fais des gaps, on passe à la fin des années 90, il y a beaucoup de sound systems qui étaient en contact avec les sound systems anglais. À la fin des années 90, il y a de plus en plus de nouveaux sound systems qui se montent, dont le mien d'ailleurs, qui s'est monté au début des années 2000, où là c'est un peu la deuxième génération des sound systems, et du coup qui est moins en rapport avec les anglais, mais qui est un petit peu plus jeune que les anciens sound systems, Du coup, comme il y en a plus aussi, on arrive toutes les problématiques de relations interindividuelles, de problématiques individuelles qu'il pouvait y avoir dans cette première génération de sound system où il n'y en avait pas tant que ça. Du coup, les gens, ils se connaissaient un peu. Du coup, il y avait aussi des guerres de personnalité, des guerres d'individus. Il en est toujours resté après, mais à partir de cette deuxième génération où ça se multiplie, bon, il y a un petit peu moins, il y a ces histoires à l'intérieur des sound systems, mais le mouvement, il devient un petit peu plus vaste. Du coup, c'est un petit peu plus dilué. Ce qui, à mon sens, c'est vu de ma fenêtre, hein, ce qui, à mon sens, a favorisé un peu la structuration d'un dialogue interrégional et international aussi, intranational plutôt, du coup pas international.
Une manière de faire.
Il y a plus de gens, donc les réunions, il y a plus de monde, donc quand les gens s'embrouillent entre eux, ils peuvent se casser, il reste quand même encore plein de gens actifs, quoi, si tu veux. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce que il y avait moins de sound system et moins de choix. Quand il y avait des grosses embrouilles, des fois, c'était pas facile. Donc au début des années 2000, il y a quand même une bonne multiplication actée des sound systems de deuxième génération. Après, ta troisième, quatrième génération, le fil se perd un peu. Je pense que les premières générations, c'était très marqué parce que le mouvement n'était pas encore si énorme. À partir de 2000, genre jusqu'à 2010, t'as la première, deuxième génération, mais après troisième, quatrième, cinquième. Après, c'est un mouvement continu de création de sound system tous les ans. Donc bon, après, on n'est plus, les générations sont moins marquées. Il y a plein de sound systems qui se créent en continu. C'est un petit peu plus fluide, je dirais, que sur cette deuxième génération où là, t'as vraiment la sensation que le mouvement s'est un peu agrandi, mais ça reste quand même une petite communauté qui se connaît. Et donc, du coup, il y a une identité communautaire un peu plus forte que par la suite. Ça va être repris quand même. Il y a quand même, pour le public, évidemment, ce sentiment-là. Mais c'est moins marqué. Les gens se connaissent un petit peu moins. Dans cette deuxième génération, les gens se connaissent quand même encore beaucoup. Si tu veux, dans la première génération, tout le monde se connaît un petit peu parce que c'est un tout petit truc. Deuxième génération, les gens se connaissent quand même encore pas mal. Après cette deuxième génération, ça commence à être fluidifié, tout le monde ne se connaît pas forcément, etc. etc. Et le nombre de publics est assez grand. 2002, il y a une date butoir qui est l'amendement Mariani, qui est la première mention dans le cadre légal du fait qu'un événement festif à caractère musical avec musique amplifiée ne doit pas dépasser les 500 personnes. Donc ça, c'est la première loi qui va mettre réellement un frein légal et qui va permettre aux autorités non seulement d'interrompre les fêtes, ça les policiers le faisaient déjà, qu'ils aient le droit ou pas, ils s'en foutaient, mais là ça va leur permettre de le faire de manière légale déjà et de pouvoir poursuivre les organisateurs en justice, ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'était plus difficile.
Oui, on reviendra un peu sur ces questions justement de répression et de comment au niveau législatif ça s'organise un peu.
Du coup, à partir de ce moment-là, il y a une prise de conscience quand même, il y avait déjà des discussions qui avaient lieu de manière nationale, mais elles n'étaient pas très structurées, les demandes n'était pas encore tout à fait bien structuré. Je crois qu'il y a eu quelques réunions quand même avec le gouvernement avant la loi Mariani, je ne sais plus exactement. Oui. Il me semble qu'il y a eu quelques réunions.
Des fois, il y en a qui tentaient la voie.
C'était encore pareil, c'était un embryon de discussion et du coup, il n'y avait pas vraiment de suivi, il n'y avait pas de volonté politique en dehors d'une fois de temps en temps, quand il y avait un gros Technival, de dire « Ok, il y a un gros Technival qui s'est organisé, du coup, on va un petit peu faire ça. » Le Technival, alors oui, peut-être on précise, ce que c'est que le Technival. Technival, c'est le premier, je crois que c'est 93, il me semble, à Fontainebleau, ou je crois qu'entre 93 et 97, c'est dans les premiers Technivals, et qui sont organisés un petit peu pour taper du poing sur la table, et c'est un appel à tous les sound systems à se rejoindre sur un grand terrain, une base militaire abandonnée, quelque chose comme ça, et à faire la teuf pendant plusieurs jours avec tous les sound systems qui sont invités à venir de manière libre et autonome. Donc c'est des zones un petit peu hautes en couleur, on peut imaginer, où effectivement il n'y a pas de la société, les lois de la société s'estompent pendant ces périodes, donc c'est beaucoup plus libre. Il y a évidemment des histoires de stupéfiants, etc., mais il y a aussi des histoires de liberté à 100% de gens qui sont là et qui vivent un petit peu dans des modèles alternatifs de la société aussi. Tu as beaucoup de travelers, une fois de plus on revient dessus, il n'y a pas que ça,
parce que ça dure plusieurs jours, des fois c'est même une semaine,
c'est clair, et c'est organisé de manière complètement autogérée, c'est-à-dire que les gens sont invités à venir, Et du coup, bon, sur place en général, t'avais un noyau dur qui avait proposé cette idée. En général, eux, ils proposent aussi de faire des réunions avec les sound systems. Dans les premiers Technival, je sais pas si ça se faisait beaucoup. Moi, j'ai commencé à y participer fin des années 90. Ouais. Donc, je suis pas sûr qu'ils faisaient des réunions comme on le faisait après, parce que à partir de notre deuxième génération, il y avait des gens qui étaient quand même pas mal en lien avec d'autres milieux autogérés et d'autres milieux militants. Donc dans les composantes des sound systems, si tu veux. Enfin moi je faisais déjà partie de différents groupes qui faisaient du militantisme pour les sans-papiers, contre Frontex, ou qui faisaient un petit peu de. Tu vois, moi je m'intéressais déjà aux lieux alternatifs, aux squats. Enfin j'avais pas mal traîné ma bosse dans tous les milieux punk, tu vois, depuis les années 90 avec les DRU, etc. Donc j'avais un petit peu comme d'autres, hein, j'étais pas le seul, hein, comme d'autres, on avait un petit peu une fibre déjà militante qu'on avait exploitée dans notre parcours personnel et du coup on s'est retrouvé dans ces années-là à plusieurs quand même à partager cette philosophie. Donc on a commencé à monter des collectifs qui partageaient justement qui étaient réunis autour de ce partage de cette philosophie et qui essayons de mettre en place une pratique d'une philosophie justement inclusive, ouverte sur les autres, qui soit un petit peu anticapitaliste, parce que justement c'était une bonne philosophie contre la marchandisation de l'art aussi, sur la liberté évidemment et sur le fait de pouvoir organiser de manière spontanée des événements où les gens allaient se réunir et ils allaient pouvoir célébrer ensemble
on va pouvoir commencer à voir un peu comment ça s'organise et quels sont les petits moyens d'y arriver. Bah, tout de suite, moi, je pense à plusieurs choses. En disant anticapitaliste, une des premières formes que ça prend, c'est-à-dire que c'est à prix libre. On demande une donation généralement aux personnes qui viennent pour un soutien, soit aux frais que peuvent engendrer ces événements, ou voilà, un soutien pour payer tout simplement, pour les petites free parties, rien que payer l'essence, quoi. Ouais, que le système ne se retrouve pas à tout payer tout seul.
Ouais, c'est clair.
J'en dis peut-être déjà trop, mais voilà, on commence à voir comment ça se met en place. Donc tu as parlé d'InfoLine tout à l'heure.
Il y a plein de sound systems différents, donc il y a des pratiques différentes au sein des sound systems, hein, quand même. Tu as des sound systems qui sont encore un petit peu hiérarchisés. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui possèdent le sound system et il y a ceux qui participent au sound system, qui viennent aider à monter, etc. Donc il y a parfois quand même il y a évidemment des éléments de hiérarchie, hein, comme dans tout groupe humain, qu'on va retrouver, même si c'est pas une hiérarchie forcément explicite. De fait, il y a quand même une hiérarchie qui se fait, parce que celui qui possède les camions et les enceintes, s'ils sont 2-3 dans le son à posséder des camions et des enceintes, évidemment qu'ils vont être plus prescripteurs en termes de où est-ce qu'on va faire les fêtes, etc., etc., parce que forcément il y a une hiérarchie. Cela dit, il y a beaucoup de sous-systèmes qui prennent ça en compte et qui essayent de faire attention. Donc du coup, il y a quand même notamment avec l'apparition des messageries Telegram, Signal, etc., etc., t'as des groupes de discussion qui se mettent en place aussi, où là il y a la promotion de l'horizontalité qui est faite quand même, c'est-à-dire que chacun a un droit de parole, et ça c'est assez important dans l'organisation préalable de ces événements. Tout le monde ne le fait pas évidemment, mais n'empêche que il y a souvent des réunions, si tu veux, il y a plus souvent que dans un cadre associatif ou dans un cadre commercial. Si tu fais des réunions pour un événement, y a une hiérarchie qui est très prononcée. Là c'est quand même un peu plus libre, parce que les gens ils sont libres d'aller et venir dans le sound system, hein. C'est des communautés qui peuvent être éphémères. Du coup, si jamais t'es trop dictatorial, à la fin les gens ils vont se casser tout simplement et t'auras plus ton crew pour t'aider à monter ta teuf. Donc il y a quand même une attention qui est portée au fait que il faut donner la parole à tout le monde. Et c'est un peu une philosophie d'action quand même qui est assez partagée par beaucoup des acteurs de ce milieu. Donc ça c'est préalable. Après tu parlais d'outils pour organiser les teufs, effectivement les InfoLines, c'était un outil dont tout le monde s'est servi. Et dont tout le monde se sert encore aujourd'hui, parce que c'est des boîtes vocales sur lesquelles tu déposes des messages, et tu vas pouvoir déposer des messages le jour J avec des indications d'accès à la teuf, sans révéler trop à l'avance où ta fête va se dérouler, pour éviter effectivement que les autorités ne viennent t'en empêcher, quoi, d'une manière ou d'une autre.
Et puis même des fois maintenant, ça a un peu évolué, il y a même des fois, les organisateurs, j'ai l'impression, passe par le fait de faire des convois pour vraiment bloquer, voire perdre un peu les flics, que l'infoline devient assez publique. Donc à un moment donné, il faut rajouter des étapes pour perdre les flics. et que en arrivant d'un bloc, enfin, voilà.
Étant donné qu'il y a un rapport de force à avoir avec avec l'autorité, alors soit t'as une fête de moins de 500 personnes, et dans ces cas-là, qui doit respecter quand même plusieurs points, ça doit être sur normalement c'est sur un terrain qui est prévu à l'effet d'événements festifs, donc il y a rarement des terrains qui répondent à cette clause, mais il faut que non seulement le terrain ne soit pas prévu à cet effet, il faut aussi qu'il y ait plus de 500 personnes, que ça ait fait l'objet d'une diffusion par voie de presse, par message ou quoi. Donc c'est des choses que les autorités doivent prouver. Donc tant qu'elles ne l'ont pas prouvé, t'es pas encore considéré comme illégal. Il y a le fait qu'il y ait de la musique amplifiée aussi. Il y en a un cinquième qui m'échappe. Mais...
Je l'ai sous les yeux un peu le truc. Enfin, moi je pense que c'est ces 4 points qui viennent
de dire. Ok, c'est les 4 points.
Enfin, sans faute.
Parfait. Donc il faut que ces 4 points soient réunis pour que la fête soit illégale. Simplement, tu t'aperçois que bien souvent, les policiers ou les gendarmes, ils respectent pas tout à fait ce cadre légal, parce que par définition, dans leur action, ils ont un certain pouvoir de prévention, de faire un peu ce qu'ils veulent, et tu pourrais porter plainte après. Hein. Mmh. Mais bon, en attendant, ils ont déjà fait ce qu'ils veulent. Donc si tu veux, quand t'es moins de 500, ça peut parfois mal se passer, même si tu débordes pas du cadre légal. Du coup, souvent, il y a un enjeu de masse critique à avoir, parce que plus t'es nombreux, plus c'est difficile d'interrompre l'événement. Et à partir du moment où t'es suffisamment nombreux, en termes de gestion de sécurité publique, c'est plus simple d'accompagner l'événement que d'essayer de l'interdire. Donc effectivement, t'as tout un jeu. Si sur ton infoline, tu notes directement les infos pour accéder au site, ça va être ennuyeux si t'as pas assez de monde sur le site. Donc effectivement, il y a ce phénomène de convoi qui est organisé. Avant les infolines, il y avait même déjà des convois qui étaient organisés par voie de flyer le vendredi soir à 22h à Porte d'Italie, et t'avais plein de bagnoles qui arrivaient. Avec l'apparition des infolines, évidemment, les points de convoi vont être de plus en plus déportés, aussi parce que il y a une grosse urbanisation rampante de tout.
Oui, c'est le lieu du convoi généralement qui est donné en infoline aussi.
Ouais, enfin, souvent par la suite, du coup, c'est plus que le lieu du convoi qui est donné, jusqu'à ce qu'il y ait une masse critique. Mmh. Et à partir de là, sur l'infoline, on dit alors là, c'est à cet endroit-là, quoi. Mmh. Ça arrive. Du coup, ces convois, ils ont eu tendance aussi à s'éloigner des grands centres urbains, parce que il y a une grosse urbanisation qui s'effectue de plus en plus, quoi, depuis le centre des villes vers les banlieues, vers les provinces proches, etc. Du coup, de plus en plus, c'est difficile. Plus t'es en périphérie, moins c'est facile d'organiser ce genre d'événement. Là où au début des années 2000, on organisait régulièrement des teufs sous les ponts de Paris, tu vois, et ça passait crème la nuit parce qu'il n'y avait pas encore trop de pratiques, etc. Aujourd'hui, c'est quand même un peu difficile. Alors, on parle de free party parce qu'il y a toujours des événements semi-légaux qui se déroulent en hangar et dans des zones désaffectées où il y a une sécurité qui est présente. Et où du coup ça joue un petit peu, il loue le hangar à une entreprise ou à une personne privée, et en fait la teuf est pas légale parce que ça dépasse les 500, mais en même temps comme il paye un truc et que c'est à moitié, c'est pas tout à fait déclaré, mais il y a un service d'ordre, il y a de la location, donc là t'as une zone floue un petit peu, donc tout le monde n'organise pas en façon free party, mais la free party elle-même, aujourd'hui ça devient un petit peu plus difficile de le faire dans le centre des villes, quoi, forcément, parce que il y a beaucoup de sound system, il y a plein de sound system qu'on fait plein de teuf, du coup pour refaire aujourd'hui comme il y a eu à l'époque des hérétiques une piscine Molitor, c'était dans la piscine Molitor dans le 16e, ils ont organisé une fête un peu au nez à la barbe des autorités avec 10 000 personnes, enfin c'était un truc assez mémorable. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile de faire ça, évidemment, quoi.
Sur l'autogestion, j'y reviens. Du coup, tu parlais que les collectifs fonctionnent de manière quand même assez horizontale et autogérée, mais il y a aussi en fait la free party en elle-même, qui est quand même un espace où l'autogestion est promue, au sens où chaque personne qui vient est quelque part responsable aussi. Alors déjà, ça commence par le prix libre, mais aussi ce désir de responsabiliser les gens et que chacun fasse attention à l'autre, et que j'imagine que la free party aussi promeut l'autogestion par son existence et son fonctionnement.
Tout à fait, c'est même une force sur laquelle les organisateurs comptent, parce que le public, en général, on essaye de l'inciter à pas être consommateur, mais à être acteur de cette fête. Comme tu le disais, ça passe par le prix libre, la responsabilisation, les messages « fais gaffe à tes potes », la bienveillance, tu vois, par exemple, le fait qu'on a beaucoup d'associations de réduction des risques aussi qui viennent et qui sont là, pas pour engueuler les gens, mais pour les accompagner et puis pour les accompagner dans leur pratique de la teuf, que ce soit dans la consommation de produits, que ce soit dans la fatigue générée par la fête, dans les risques sur la route, les piercings, les tatouages, etc. etc. Donc tu as quand même un esprit de bienveillance qui est promu. Enfin, plus, c'est pas forcément dans tous les sound systems, mais quand même dans beaucoup de sound systems, et dans la communauté, et dans le public qui est moins, qui fait pas partie vraiment des sound systems, mais il y a aussi beaucoup cette notion qui est portée. Donc, t'as beaucoup de groupes qui se forment aussi pour faire bah, le convoi ensemble, pour faire du covoiturage, du partage. T'as des groupes communautaires qui se montent aussi sur Facebook ou ailleurs, sur les messageries, pour discuter entre gens du public qui se retrouvent autour de ces thèmes, que ce soit la passion de la musique, que ce soit s'organiser ensemble pour venir en teuf, que ce soit partager du son, que ce soit bah, s'entraider en cas de problème avec la police, parce que tu te prends souvent des amendes quand tu fais partie du public et que tu repars sur la route. Ça peut arriver qu'il y ait des grosses sessions d'amendes de la part des forces de l'ordre. Donc il y a quand même pas mal de communautés de public qui se sont montées là-dessus, là aussi, parce que effectivement le modèle qui est proposé, qui est promu, c'est celui de l'autogestion et de la participation et de la responsabilisation des gens. Alors, c'est un travail continu, hein, je veux dire, parce qu'il faut tout le temps passer des messages. Donc c'est pas évident, cette stratégie de passer des messages, mais comme c'est un peu une des données fondamentales, bah, on la retrouve un petit peu en répercussion dans les communautés, effectivement, de public. Donc le message, est quand même, il passe quand même un petit peu. C'est pas le cas tout le temps. Mais...
Et du coup, ouais, on se demandait, enfin, donc c'est... Il y a, tu disais, il y a certains collectifs, alors peut-être pas tous du coup, mais il y a quand même une essence aussi politique de tu disais dans les années 90, pas forcément, mais c'est peut-être plus
pas explicité. Elle était moins explicitée, ça veut pas dire qu'elle était pas dans la pratique, ouais. Hein, mais elle était moins explicitée.
Et du coup, comment se, comment dire, comment se manifeste les messages politiques? Est-ce que c'est dans la musique? Est-ce que ça va être un affichage?
Alors au début c'était plus par l'exemple, c'est-à-dire c'est dans l'organisation déjà, est-ce que tu montres au public de la manière dont tu es organisé. Donc tu vois que bah il y a plein de gens qui sont qui s'occupent bah, de faire la donne, de faire la buvette, de d'aller gérer le son, d'aller faire des équipes pour aller vérifier que ça se passe bien sur les dance floors et dans les campings ou dans les parkings. Donc tu vois, il y a déjà la démonstration par l'exemple. Donc ça, c'est depuis les années 80, ça c'était déjà le cas, hein, donc qui est quand même d'une certaine manière incitative. Les messages que tu fais passer aussi de manière organique, c'est-à-dire bah, les gens qui participent des sound systems et qui participent de l'organisation, ils parlent aussi au public. Quand tu fais la donation, tu vas parler aux gens, donc tu leur expliques, bah, t'as vu, on a fait une belle teuf, regarde, n'hésite pas à faire une donation, nous ça nous coûte de l'argent, n'oublie pas qu'on est tous là ensemble. Et du coup, c'est aussi une force inhérente qui est pour les organisateurs et les sound systems, c'est aussi une force inhérente de la tenue de l'événement, parce que bah, le fait que le public se sente impliqué, si tu veux, il va être aussi plus incité à, bah, tu vois, à défendre le sound system, par exemple, à s'organiser bah, quand la police fait un barrage, par exemple, bah, tu vas pouvoir dire, je me souviens, mais ça c'était déjà dans les premières teufs, je me souviens de teufs où tu avais un barrage de 6 policiers devant et puis tu avais 2000 personnes qui attendaient. Et puis t'as deux gars dans la foule qui disent, bon ouais, venez à trois, on court, hein, mais on tape pas les flics, hein, mais on court, hein. Et du coup à trois, tout le monde court, t'as les 2000 personnes qui courent, donc bon bah t'as 8 policiers en face, bon les mecs ils sont obligés de s'écarter et de laisser passer les gens. Donc t'avais un petit peu tout ce message et de manière organique ces discussions entre les gens déjà sur la teuf. Alors là, c'était dans le public, évidemment, mais les organisateurs à la donne, à la buvette, qui font tout un discours de passer leur philosophie, d'expliciter leur philosophie. Et il a fallu un petit peu de temps. Alors, il y avait sans doute des sound systems précurseurs dès les années 90 qui déjà avaient des flyers, avaient des panneaux, diffusé des messages en amont et tout, hein, je dis pas, mais c'était pas une pratique forcément super répandue. En tout cas, moi, je me souviens que cette deuxième génération de sound systems, à partir de la fin 90-2000, on s'est beaucoup posé la question de comment on pouvait faire passer nos messages. On a beaucoup trituré de la tête, on a fait des fanzines dans lesquelles bah, on essayait de passer en revue un petit peu les outils de l'autogestion qu'on utilisait, c'est-à-dire bah, les AG, les tours de parole, les choses comme ça, et on essayait de faire passer un petit peu en amont des messages sur l'organisation, sur la philosophie de notre modus operandi. Sur site, on essayait d'avoir des pancartes, et on essayait aussi de faire un petit peu de convergence des luttes. même si ça n'a pas toujours été facile, et si aujourd'hui c'est toujours pas si facile que ça, parce qu'on a essayé de faire aussi des messages antisexistes, antiracistes, anticapitalistes, si tu veux, et les autres communautés militantes qui militaient et qui n'étaient pas forcément techno, ils ont souvent vu la techno d'un mauvais œil, parce que c'est un tas de repères de drogués, et tu comprends, c'est tous des punks à chiens, tout ça, donc il y a un petit peu... C'est pas faux tout le temps, si tu veux, mais c'est vraiment très dommage de réduire ça à ça, parce que c'est vraiment un mouvement populaire. Aujourd'hui, tu vois, il y a plus de 1000 sous le système, je crois, en France. Ça représente je sais plus combien de centaines de milliers de personnes, si on n'a pas atteint déjà le million. Donc c'est dommage de réduire ça à ça, parce que t'as une vraie... Puis c'est beaucoup de jeunes, c'est beaucoup de jeunes gens qui sont autrement pas forcément engagés dans d'autres trucs militants, donc ça va être aussi une porte d'entrée vers d'autres modèles alternatifs. Et du coup, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage de cette dissension entre les autres mouvements militants et la vision qu'ils ont de la techno, même si le milieu techno est pas parfait, le milieu free party est pas parfait, bien sûr, regarde à ça, mais bon, enfin, t'as toujours des problèmes d'alcool, et les problèmes de bienveillance, ils sont inhérents à toutes les communautés, donc drogue, pas drogue, je trouve ça un petit peu dommage de s'arrêter à cette barrière. C'est comme ça, nous en tant que Sound System et en tant que membres de Sound System qui participons ou qui participions à d'autres mouvements militants, on a souvent essayé de faire de la convergence des luttes, donc de créer des événements, de faire des infos kiosques, des stands avec des infos sur les gens, d'organiser des récoltes de vêtements ou de jouets pour des populations défavorisées, pour des sans-papiers ou autres, d'organiser, si tu veux, en amont, on a pas mal organisé aussi d'événements dans les squats pour réunir des sous pour des problèmes juridiques, et aussi pour réunir des sous pour d'autres causes militantes à qui on a fait des donations et des choses comme ça. Je cite la cause des sans-papiers parce que dans mon collectif, dans les collectifs auxquels j'ai participé, dans mon Sound System, on était plusieurs déjà à être personnellement engagés par ailleurs dans d'autres trucs comme ça, donc ça nous est souvent arrivé de créer ce genre d'événement. Beaucoup de Sound System essayent de mettre ça en place aussi. Cette convergence, elle est pas toujours évidente, mais je pense que aujourd'hui, c'est peut-être plus poreux, il y a peut-être plus de gens qui sont déjà militants par ailleurs, qui viennent en free party, dans le public et dans les sons. Donc tu vois, aujourd'hui, tu as des assos comme le Red Flag, que je pense, là, qui sont à la pointe sur les violences sexistes et sexuelles, donc qui sont aussi, si tu veux, qui sont aussi des gros militantismes de la société aussi, donc qui vont rentrer à l'intérieur. Malheureusement, je trouve qu'on manque toujours de militantisme et de liens avec les mouvements politiques ou syndicalistes, mais une fois de plus, c'est hyper difficile. Et comme le mouvement est aussi beaucoup anarchiste, c'est pas toujours facile de bosser avec les syndicats, etc. Enfin, le mouvement est anarchiste. Il y a pas mal de gens qui se réclament de la philosophie anarchiste dedans, en tout cas. C'est pas forcément tout le monde, et une fois de plus, il y a des sound systems qui sont contre les étiquettes et contre expliciter leur action politique. Ils sont là juste, nous, on veut faire la teuf, point barre. Et juste dans la réaction politique, c'est gratuit, ils promeuvent l'autogestion, bon voilà, pas de chance, c'est aussi politique, mais ils le disent pas, ils veulent pas le dire. Donc tu vois, c'est tout le monde ne le fait pas quand même.
Anarchiste, ça tombe bien, on est sur la
radio libertaire, c'était un gros clin d'œil. C'était un gros clin d'œil.
Mais est-ce que la musique aussi, vous véhiculez des messages à travers la musique
Alors, pareil, il y en avait, alors dans les années 80, il y en avait quelques-uns, tu vois, les Spiral Tribe notamment, ont fait leur track le plus célèbre, c'est sans doute Forward the Revolution.
Je pense qu'on va la passer après.
Ouais, forcément. Donc, si tu veux, il y avait déjà des sons qui faisaient des messages. De mon souvenir, à la fin des années 90, il y en avait quelques-uns qui le faisaient, mais la plupart, c'était pas la volonté ni le thème. Donc, la musique était assez neutre à ce niveau-là, elle était surtout musicale. Après, il y avait des extraits de films, donc tu vois, tu vas retrouver des extraits de films de Bernie, d'autres extraits de films comme ça, où il y a des petites vannes sociales sur le mouvement politique et tout. Mais c'était pas forcément si répandu que ça. Il y avait beaucoup de trucs qui étaient sans message du tout, quoi. Le message n'était pas dans la musique. À partir, il y a un moment quand même, il y a eu plus une prise de conscience là-dessus, une volonté d'introduire ce genre de message dans la musique. Donc, au fur et à mesure que les années 2000 se sont écoulées, il y a eu de plus en plus de messages dedans. C'est pas forcément la totalité, hein. Il reste encore beaucoup de morceaux dont la musique n'est pas de message explicite. Néanmoins, la manière de composer ta musique, ce que tu proposes comme structure musicale, comme son, il y a quand même un aspect de bousculer un peu l'ordre établi de la musique, si tu veux, qui est une de recherche musicale, même s'il y a beaucoup de gens qui vont dire ça sonne pareil, c'est des gros boum boum et tout. Moi, je trouve qu'il y a quand même une vraie volonté de de s'affranchir un petit peu des carcans de ce qu'on pouvait trouver dans la musique qu'on avait jusque-là, dans le rock, que ce soit la musique classique, le jazz, le rock, même si le jazz a quand même pas mal cassé les codes. Bah, le rock aussi, mais bon, au bout d'un moment, la structure du rock, c'est un peu couplet-refrain, des trucs en quatre. Alors il y a des groupes qui changent, bien sûr, aujourd'hui, qui sont beaucoup plus inventifs, il y a de la fusion, il y a plein de styles qui se sont mélangés. Mais c'est vrai que la techno, quand même, dans la free party aussi, à mon avis, elle s'est inscrite un peu dans un sens d'affranchissement des règles déjà établies, si tu veux, et de tentatives de travailler sur de nouveaux sons et de nouvelles manières d'agencer ces sons, et aussi sur la technique de restitution des sons, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs sons, tu vois, de sondiers, de gens qui travaillent le son, et pour qui c'est hyper important cette notion de son, de comment tu règles ton sound system pour que ça sonne bien, pour que ce soit agréable à l'écoute, et pour que la restitution sonore elle-même, les ondes que tu vas envoyer, elles vont parler aux gens. Enfin, je veux dire, il y a un tas d'études qui montrent qu'effectivement il y a un phénomène un peu d'empowerment, de renforcement, quand tu écoutes de la musique fort, avec des basses, etc., il y a un sentiment de renforcement quand même qui est constaté. T'as plein d'études universitaires, je les ai plus en tête malheureusement, donc c'est pas terrible, mais comme sourçage scientifique, mais je sais qu'elles existent, tu peux en trouver facilement sur internet, et qui sont des études vraiment sérieuses là-dessus. Donc il y a un petit peu cette démarche quand même dans le son aussi, intrinsèquement dans la production du son, il y a un petit peu cette démarche de s'affranchir des codes et de qu'est-ce que ça va faire comme impact sur le public et sur ce qu'il entend.
Ok, bah c'est bien, on va pouvoir faire une petite pause avec un peu de son justement pour voir ce que ça donne. There are some dark pages in the history of the white man's dealings with the Indian, and many parts of the record are stained with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit. Many parts of the record are stained with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit. Wake up!
might start a party, but you can't stop the future. You might start the party, but you can't stop the future.
Nous venons d'entendre Forward the Revolution, un morceau des pionniers Spiral Tribe. Et maintenant, écoutons un autre classique de la scène, c'est The First Window de FKY.
We'll be right back. The first window. The first portal to a new dimension. One greater, one more wondrous than...
nous a dépeint un très beau tableau, en tout cas d'activisme par la fête. Et bon, voilà, il y a quand même un envers du décor à tout ça, je pense. Et bon, tu l'as très bien dit, hein, y a des gens qui participent à la politisation ou au militantisme dans ce mouvement, mais voilà, il y a aussi autre chose qui se passe. Enfin, tout le monde n'est pas ancré dans ces valeurs-là. Et voilà, surtout dans les technivals, c'est peut-être d'autant plus visible parce qu'il y a vraiment plein de monde, ça brasse beaucoup de monde. Mais, est-ce que tu peux nous dépeindre un peu plus globalement ce qui se passe un peu,
où les gens il y a eu plusieurs générations de technivals, donc il faut voir que tous les technivals n'ont pas été faits de la même manière, mais c'est vrai que les technivals, les premiers technivals, moi je n'étais pas à ceux des années du début des années 90, donc Fontainebleau, tout ça, etc. Je ne sais pas exactement comment c'était. Je sais qu'il y a certains autres technivals à partir des années 2000, c'était un peu la cour des miracles quand même, quoi, parce que tu avais plein de sous-systèmes différents qui venaient de partout en Europe. Et tu avais forcément des sound systems qui n'étaient pas forcément dans la même philosophie opérationnelle ou qui étaient plus dans une philosophie un peu de, tu vois, de peut-être de vendre de la drogue ou d'avoir un rapport un petit peu avec le public très très mercantile malgré tout. Donc tu vas retrouver, même si ça reste à prix libre dans la plupart des cas, etc., tu as des gens qui vont faire des bars un petit peu chers, tu as des gens qui vont faire de l'enrichissement personnel aussi, des gens qui vont dealer de la drogue aussi, pas mal quoi si tu veux. Alors ça, c'est une fois de plus, c'est pas forcément la totalité des sound systems. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu moins le cas. Bon, t'as des gens dans les sound systems sans doute qui vendent de la drogue, comme dans le public, comme dans toute chose.
Donc, décorrélé,
faut pas nier ça, mais il y a des sound systems dont c'était quand même l'activité principale, c'est arrivé. Du coup, ça, c'est un peu l'envers du décor parce que c'est assez difficile à gérer comme image au bout d'un moment quand t'as de l'enrichissement personnel qui se fait derrière. Alors t'as des gens qui faisaient ça de manière militante, ils vendaient la drogue comme d'autres vendent de l'alcool, ils achetaient du son avec, donc c'était la destination du son de système, ça arrivait. Si tu veux, c'est de la piraterie, bon, t'as envie de dire, c'est de la piraterie, après est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est plus condamnable que le business de l'alcool ou le business de l'armement légal, je suis pas sûr. Mais bon, néanmoins c'est quand même un business, et surtout il y en a pour qui c'était pas seulement pour financer les enceintes, c'était aussi pour de l'enrichissement personnel. Et du coup, là, ça devient un petit peu plus problématique. Ça, tu le vois effectivement dans les gros technivals qui invitaient plein de monde. Je pense à tous les technivals qui étaient faits entre 2000 et 2010, où ça a quand même été assez largement le cas. T'avais aussi des sound systems qui étaient assez violents quand même, tu vois, qui géraient les problématiques sur leur dance floor de manière hyper violente. T'as eu aussi une triste période où il y avait des brigades anti-caille qui s'étaient montées, tu vois, avec des gens qui allaient chercher les caïras. Donc, je te dis pas le degré de délit de faciès qu'il pouvait y avoir. Du coup, il y a eu pas mal de dérives de la part de certains acteurs, pas de tous, mais il y en a eu quand même. Il y a aussi des sound systems qui étaient nationalistes et racistes, quoi, si tu veux, pas forcément dans leur discours, quoique certains c'était un petit peu le cas, ils n'étaient pas non plus, mais bon, dans leur public et dans leur manière de faire, tu vois, c'était pas forcément très. C'était pas très réglo, quoi, si tu veux. Surtout pour nous qui venions plutôt d'un truc antifasciste, on n'était pas trop, d'accord avec ça, mais il y en a eu quand même quelques-uns. Et du coup, bah, ça, c'est un petit peu l'envers du décor. Il y a aussi des gens qui ont monté des sound systems et qu'on n'avait rien à foutre de leur public, donc qui les ont mis en danger parce qu'ils n'ont pas sécurisé leur terrain, parce qu'ils ne se sont pas posé la question de savoir s'il n'y avait pas des problèmes en amont, en aval et sur place, et qui utilisaient l'ultra-violence pour régler tous les problèmes. Donc, si tu veux, ça. Ça aussi, ça fait partie un petit peu de l'envers du décor des sound systems. Tous ne sont pas comme ça, mais il y en a eu, je pense qu'il y en a encore. Cela dit, les Technival, il y en a eu plusieurs qui ont été organisés après 2010, à partir de 2015-2020, il y en a eu plusieurs qui ont été organisés de manière un petit peu plus, stricte sur ces trucs-là. Donc, où il y avait en amont une communication sur les messages, où il y avait des réunions tous les jours justement avec tous les sons pour impliquer tous les sons de système dans un peu plus d'autogestion. Ça n'a pas forcément marché tout le temps, mais quand même, tu avais pas mal de sessions de Technival entre 2015 et 2020 qui ont été pas mal sur l'autogestion parce que le noyau dur qui avait proposé ces événements à la base s'est bien débrouillé pour bien faire passer le message en amont, pour être strict justement sur le fait que attention, nous on veut pas des gens qui ont des comportements sexistes, racistes ou fascistes, donc on sera vraiment très attentionnés. Et effectivement, une fois sur place, on monte des équipes, et ces équipes elles vont voir chacun des sound systems d'une part pour leur dire venez aux réunions qui ont lieu une ou deux fois par jour pour qu'on discute de la tenue du Technival, et aussi pour regarder quand ça se passe mal, pour dire non les mecs là votre crew là, vous avez défoncé 5 personnes sur votre dance floor comme ça parce qu'ils vendaient de la drogue. Alors certes ils vendaient de la drogue, mais c'est pas une raison pour défoncer des gens, c'est pas une raison pour faire n'importe quoi et pour aller enterrer des gens alors que t'as décidé que celui-là il te plaisait pas, parce que bien souvent il y avait un délit de faciès aussi, si tu veux. Du coup c'est un petit peu limite. Plus tu t'y prends en amont et plus tu as d'autogestion sur place, et plus c'est simple de spotter directement ces comportements et de les contrer, enfin d'essayer de les contrer, parce que c'est pas toujours facile, quoi. Donc entre 2015-2020, il y a eu quand même une démonstration de Technival qui ont été organisées plus sur cette philosophie. Mais avant, il y a eu beaucoup d'abus, et je pense qu'il y a toujours des abus encore aujourd'hui, malheureusement.
Un rassemblement comme ça, ouais. Et du coup, c'est vrai que, parce que à un moment donné, je voulais aussi te reprendre là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu, avec les Technival et la difficulté de les organiser, il y a eu un peu des gens qui voulaient jouer la voie du légal, d'autres qui voulaient absolument faire dans l'illégal. Voilà, il y a eu plusieurs formations ou plusieurs écoles qui sont un peu développées. Et j'imagine là, quand tu parles aussi de 2015-2020, en gros, c'est pour faire référence peut-être aux Insoumis particulièrement qui font. Alors voilà, on est même dans la multison, c'est-à-dire entre le Technival et la Free-Partie, c'est plusieurs sons, genre 5, 6, 7, 8, enfin, moins de sons qui se mettent ensemble, donc voilà, sur des valeurs j'imagine communes, une organisation commune. Et bon, il y a peut-être d'autres que Insoumis ou je sais pas, enfin, peut-être tu peux nous parler un peu, parce que moi je trouve que ils sont très caractéristiques d'une nouvelle école un peu qui revendique des choses en tout cas.
Alors, ouais, c'est clair que le collectif des Insoumis, à partir de 2000, un petit peu après 2010, en 2000, il me semble que ça a commencé vers 2013, je ne sais plus la date exacte. En tout cas, à partir des années 2000, au début des années 2000, effectivement, parce qu'il y avait plusieurs personnes dedans, une fois de plus, qui étaient assez militantes et qui avaient décidé de prendre un petit peu cet aspect militant et d'essayer de le porter dans les messages qu'on diffusait. Donc du coup, il y a eu pas mal ça, mais il ne faut pas oublier que sur la même période, je pense que, si tu veux, les Insoumis, c'est aussi un phénomène d'une prise de conscience à un moment. Je pense qu'il s'est bien caractérisé dans l'action de ce collectif, mais d'une part, c'était loin d'être le seul. Tu as plein de collectifs partout en région. Je les ai plus en tête et je m'en voudrais d'en citer 3 et d'en oublier 5, parce qu'il y a eu des gros collectifs, que ce soit en Bretagne, dans le Sud, ou ailleurs, qui ont vraiment été aussi très porteurs de ce...
C'est vrai que ça fonctionne beaucoup par région, justement, quoi, parce que proximité qui fait que tu te connais mieux, que tu organises plus facilement un endroit.
C'est clair. Et du coup, en même temps que... je pense que les Insoumis, du coup, ça a été un peu une... une bonne dynamique qui a spontanément fait ça, mais c'était quand même plus répandu dans ce truc-là. Et d'ailleurs, tu vois, c'est à peu près dans ces années que c'est aussi un petit peu que c'est un petit peu structuré la CNS, la Coordonnée Nationale des Sons de Système, qui est montée un petit peu en puissance. Alors au début, c'était plus par région où il y avait vraiment une tentative dans chaque région. Beaucoup le collectif des Insoumis, on a pas mal été prescripteur de ça auprès des sons de système d'Île-de-France, notamment dans les années 2015, en disant réunissez-vous, c'est le moment de parler ensemble, de se structurer un petit peu pour avoir des revendications communes et un discours commun. On était prescripteur de cette dynamique, mais elle existait quand même par ailleurs. Hein. On n'a pas inventé les choses. Et dans le sud, dans d'autres régions, il y a eu pas mal de tentatives aussi de réseaux locaux comme ça qui se sont mis en place. Et ça a permis à ce que ces réseaux locaux commencent à se connecter à un niveau national. Et du coup, il y a eu plusieurs associations qui ont essayé un petit peu de porter ce mouvement-là. Il y a eu effectivement, au moment de cette structuration de coordination nationale, donc 2015-2020, il y a eu pas mal de dissensions, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'il y en a qui prenaient plus un modèle déclaratif légal, en disant « nous, on veut essayer de faire du légal », et d'autres qui disaient « nous, on ne croit pas que la discussion avec l'État, ça va donner quoi que ce soit ». Et du coup, qui étions plus dans une, c'était notre cas, nous, qui étions plus dans une démarche d'organiser de manière autogérée et spontanée les événements, sans parler avec l'État, parce qu'on croyait pas que la discussion avec l'État pouvait porter ses fruits. Et il y a eu souvent pas mal de difficultés dans ceux qui voulaient faire du légal. Ils ont souvent été confrontés à des abus d'autorité et à des bâtons dans les roues, tout simplement, pour organiser leur truc. Donc si tu veux, le débat s'est peu à peu quand même un petit peu estompé. D'autant que par la suite, les gens, il y a beaucoup de sons qu'on fait et du légal et de l'illégal. Donc il y a eu moins de confrontation entre les deux, parce qu'en fait, tu faisais un petit peu de. Tu pouvais faire les deux, quoi, en fait. Oui, du coup, il n'y avait plus de dissension et il y avait un terrain d'entente sur l'autogestion et sur le fait de que ce soit pas déclaré, parce que ça n'est illégal que si tu sors du cadre légal et que tu as des poursuites. Parce que si toi, tu étais sorti du cadre légal, tu es au courant, mais que les autorités t'ont pas pris et qu'ils n'ont pas porté plainte et qu'il n'y a pas de suite. Bah, c'était pas illégal, ça devient illégal que si t'es condamné en justice, quoi, si tu veux. Avant que tu sois condamné, c'est de la présomption d'innocence. Tu peux avoir de fortes présomptions que t'es pas innocent, mais n'empêche que ça n'est illégal qu'à partir du moment où t'es condamné. Donc moi je préfère dire qu'il y a une dissension entre ceux qui voulaient faire du déclaratif et du non-déclaratif. Quoi. Je trouve que ça
correspond. Du coup, c'est une bonne transition, parce que du coup on a un autre envers du décor, bah voilà, c'est le rapport de force avec l'État, et bah voilà, toutes les sanctions ou tous les risques. Qu'on peut subir de la part de l'État en participant à ces fêtes. Donc ben, globalement, je peux aller assez rapidement, mais maintenant il y a tout un arsenal législatif pour sanctionner les participants au Free Party. Ça peut être autant pour tapage nocturne, bon travail dissimulé, abandon de déchets d'ordures, l'entrée par effraction, dégradation du bien d'autrui, il y a la mise en danger de la vie d'autrui, la facilitation du trafic de stupéfiants, le délit d'agression sonore. Il y a tout un ensemble, même des fois, voilà, une manifestation qui a été interdite par le procureur ou le préfet. Ça peut permettre, du coup, aux forces de l'ordre de mettre des contraventions, en gros, aux personnes. Donc, voilà, tout simplement, des flics qui prennent des fois même les plaques d'immatriculation. En tout cas, voilà, c'est sûr que pour des amendes de 135 euros ou plus pour n'importe quel participant. Ce qui fait que, par exemple, on a vu là en mai dernier, c'était un Technival ou une multison à Parnay où ils ont atteint quand même 650 000 euros d'amende, ce qui vient des sommes mais incroyablement énormes. Il y a même, ça arrive même jusqu'à la saisie du son de système. Enfin, ils peuvent même interdire à des véhicules, à des poids lourds de circuler s'ils ont du matériel de sonorisation. Ouais, quoi. Enfin, voilà, c'est hyper précis, il y a plein de moyens ou de leviers pour faire chier. Ah. je sais pas ce que tu peux.
En gros, il y a plus ou moins trois niveaux de risque, que ce soit pour les sons de système ou les participants. T'as un premier niveau de risque qui est l'intervention de la police en dehors de tout cadre légal. Parce que la police, souvent, et la gendarmerie, souvent, ils se gênent pas pour rentrer sur un site, même si t'es moins de 500 personnes, même si t'es sur un terrain légal parfois, il suffit que ce soit non déclaré. Et que du coup, la police arrive et ils vont faire des saisies complètement illégales, ils vont aller couper les fils de tes enceintes. Enfin, donc, tu as déjà un premier risque qui est un risque de répression de première brute, quoi, si tu veux, qui va s'appliquer en dehors de tout cadre légal et en dehors de tout arsenal juridique. Tu as un deuxième niveau qui est le cadre légal. Donc là, où, de manière illégale, la police peut saisir ton sound system. Après, tu peux porter plainte, souvent tu récupères ton sound system parce que des fois la police fait pas bien son travail et du coup, devant la justice, la saisie du sound system ne tient pas parce qu'ils n'ont pas réuni les preuves que tu n'avais pas fait le
truc de manière illégale. Le sound system qui est loué, bon, il est censé être rendu normalement aussi.
Par exemple, voilà, il est censé pas être saisi parce que normalement, si c'est loué, c'est des propriétés insaisissables, c'est pas toujours respecté, donc tu as ce risque-là, mais tu as quand même un risque de cadre légal dans la loi où il est prévu que ton sound system puisse être saisi justement si tu dépasses ce cadre légal. Donc t'as les amendements Mariani de 2002 et t'as aussi d'autres lois qui sont passées récemment, toi tu les cites tout à l'heure.
Bah, c'est Freeform aussi, bah, un collectif qui, voilà, qui aide aussi un peu.
Une asso, c'est une asso.
Je disais un peu.
Je crois qu'il y a, je sais plus s'il y a les nouvelles lois qui sont passées récemment.
Qui renforcent en gros tout l'arsenal.
Qui renforcent cet arsenal et qui rajoutent des peines, je crois. C'est pas encore comme en Italie. En Italie, par exemple, récemment, Meloni, elle a fait passer des lois hyper répressives contre la Free Party, où maintenant les organisateurs risquent des peines de prison, carrément. Entendons-nous bien. Il y a un troisième niveau de risque légal. Donc le premier, c'est la répression brute sans cadre légal. Le deuxième, c'est le cadre légal qui permet la saisie des véhicules. Le cadre légal spécifique à la Free Party. Et enfin, le troisième niveau, c'est l'arsenal juridique qui existe en dehors de la Free Party. Travail dissimulé, amende pour circulation ou pour stationnement.
Les responsabilités, s'il y a un accident, il y a un truc, ça peut être déporté. Des fois, ils peuvent rechercher les organisateurs pour porter
la responsabilité. C'est un quatrième niveau, mais bon, là, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, tout ça. Ça, c'est un cadre qui est quand même très général. Il est un petit peu moins utilisé que celui du stationnement, du travail dissimulé et des nuisances sonores, par exemple. Où là, on pointe, mais ça existait avant. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des lois qui sont faites spécialement pour la Free Party. C'est un arsenal juridique qui existe. Ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, les préfectures, elles sont de plus en plus habituées à devoir traiter la Free Party. Elles se passent le mot aussi. Donc elles ont des fiches d'intervention qui deviennent de plus en plus détaillées et qui donnent les outils qui ne sont pas forcément en rapport avec la Free Party, mais qui font partie de cet arsenal juridique. Donc, tu as ce troisième niveau, arsenal juridique, qui fait bien mal, parce que là, tu peux taper dans le public, comme tu citais les 650 000 balles d'amende après une teuf. Bon, tu fais, ouais, d'accord. Et donc, le public a payé quand même bien cher, le public et les sons, hein, parce qu'il ne faut pas croire, quand tu sors de la teuf et que tu es sound system, tu sors avec ton véhicule, tu vas te prendre aussi les amendes, et en plus, si tu as du son, tu risques de te faire saisir ton sound system, ce qui coûte quand même assez cher, quoi.
Ok, parce qu'on remarque du coup dans ce mouvement, c'est aussi une capacité à s'auto-organiser pour lutter, pour répondre aux situations diverses et variées et s'auto-organiser collectivement. Là, je pense à deux choses, quoi. Il y a des formations juridiques maintenant qui accompagnent les sound systems. Il y a aussi la RDR, donc de la réduction des risques, des associations qui interviennent pour réduire les risques, mais voilà, liés aux drogues, au sexe ou à certaines pratiques. Hein. Toi, tu connais bien en plus, je peux le dire,
partie
de Techno Plus. Et voilà, je pense que tu connais aussi bien ce réseau de formation juridique. Enfin voilà,
formation juridique, là, on est déjà dans une bonne évolution historique, hein, parce que au début, ça n'existe pas vraiment là. Les formations juridiques, elles se sont de plus en plus développé à partir de... Freeform, je crois, a été assez précurseur sur ce sujet, mais après, ça s'est un petit peu autonomisé, parce que la communauté, d'une part, l'apparition et la structuration de la Coordination Nationale des Sound Systems a fait qu'il y a eu la reprise d'initiatives qui avaient été lancées par Freeform, notamment le fonds de soutien juridique, qui lui servait surtout à payer les avocats, pas les amendes, hein, mais les avocats en cas de saisie et pour défendre les sound systems. Il y a aussi pas mal d'associations qui ont proposé des formations de cadres juridiques qui ont donc payé des intervenants qui étaient avocats ou juristes pour former les sound systems justement au cadre législatif et puis à savoir répondre à l'action de la police aussi, parce que la police a des droits et des obligations aussi, et du coup il faut bien connaître ses droits et ses obligations pour pouvoir toi défendre ton action. Donc ça c'est arrivé quand même vachement plus tard, les premiers de ce que j'ai vu de ma fenêtre, mais il me semble que ça correspond à peu près ça. Les premières initiatives qui se sont montées de manière autogérée par la communauté, ça a été notamment pas mal d'associations sur la réduction des risques, donc qui se sont basées sur le constat, je pense à Techno Plus parce que j'étais volontaire pendant très longtemps, je suis un peu en pause aujourd'hui de Techno Plus pour des raisons d'emploi du temps et de mes études que j'ai repris tout ça en partie. Mais néanmoins, pendant longtemps, j'ai bien vu cette action et je connais pas mal son histoire, puisque en rentrant dans cette association, on a aussi l'histoire de l'association qui nous vient. Et du coup, c'est un mouvement dans les années 95 qui s'est monté pour Techno Plus spécifiquement. Il y a d'autres assos qui se sont montés aussi à la suite de ça, mais c'était quand même un précurseur Techno Plus. C'était des gens de la communauté qui se disaient, merde, nous on voit qu'il y a des consommations et des pratiques à risque, qui n'est pas forcément lié que à la consommation, hein, mais ça va être la fatigue, le feu, évidemment la consommation de drogue, d'alcool, mais aussi la sécurité routière, enfin un tas de trucs qui voyaient des pratiques à risque et qui voyaient des gens qui ont vu qu'il n'y avait pas de message et qu'il y avait pas de, que le public était un peu laissé à lui-même, parce que bah, effectivement les autorités, les autorités, que ce soit des autorités sanitaires ou les autorités sociales et éducatives, ils ne s'occupaient pas du tout de ça, et du coup bah, le message c'était un peu la drogue c'est mal, la teuf c'est mal de toute manière, donc ça ne sert à rien d'en parler. Donc dans les années 95, il y a des gens qui ont commencé à se monter en collectif, qui ont commencé à diffuser, à rédiger, à diffuser des flyers qui étaient justement liés autour de ces pratiques à risque et qui avaient pour but non pas de moraliser les gens et de faire la morale aux gens, mais d'expliquer que les pratiques comportaient des risques inhérents et qu'on pouvait réduire ces risques. C'est-à-dire que bah, il s'agissait... Alors, la notion de réduction des risques, elle est déjà née dans les années 80, avec notamment la vague de sida, où il y a pas mal d'associations qui se sont montées et qui ont fait justement déjà de la réduction des risques et de la santé communautaire, ça s'appelle. C'est-à-dire la santé qui est basée sur les retours d'expérience de la communauté. Donc ça existe déjà depuis les années 80. Dans les années 95, avec Techno Plus, c'est spécifique au milieu de la techno qu'on a vu se monter ça. Donc du coup, là, c'est des gens qui, de plus en plus, issus de la communauté, qui se sont intéressés à ces comportements, qui ont fait de la production documentaire pour pouvoir justement bah, prévenir les risques. Alors, on ne dit pas prévenir, on dit réduire les risques, parce qu'il s'agit d'accompagnement, il ne s'agit pas de moraliser.
D'information, quoi. Aussi,
voilà, tout à fait, d'information objective sur bah, les risques encourus. Éventuellement les manières de réduire ces risques, mais aussi les risques encourus, point barre, parce que tu as des risques inhérents que tu peux pas réduire de toute manière, hein. Si tu te bourres la gueule et que tu dors pas pendant 72 heures, bah, t'as un risque sur ta santé, t'as un risque de d'épuisement, t'as un risque, si tu prends des produits en plus, t'as un risque de santé dans l'abus et dans l'exagération. Donc tout ça, il faut un petit peu faire la part des choses, parce que quand tu dis à des jeunes qui ont décidé de prendre des extasies et qu'on n'a rien à foutre de ce que tu leur dis, quand tu leur dis ouh c'est mal, bah, ils s'en foutent. Par contre, si tu leur expliques qu'un extasie ça reste, que ça enlève ta sérotonine de ton cerveau et que a priori il faut plusieurs jours, une fois que t'en as pris un, il faut jusqu'à 40 jours pour que tu reconstitues ton stock de sérotonine, et sinon ça peut être hyper dangereux dans la surdose. Bah déjà les gens ils sont un petit peu plus, ah oui d'accord, on me dit pas juste que c'est mal, bah, on explique quels sont les risques, et du coup charge à moi de choisir quelle politique et quelle démarche je veux avoir par rapport à ça, mais au moins je peux faire des choix éclairés. C'est un petit peu le principe. Donc dans les années 95, il y a notamment Techno Plus qui se monte là sur cette philosophie. Et plein d'autres associations se sont montées partout. Et grâce à ces associations, il y a aussi un lien avec le tissu associatif classique, parce que la réduction des risques, elle venait notamment du sida, mais c'est aussi des choses qu'on retrouve dans la prise en charge des populations précaires en zone urbaine et en zone rurale aussi d'ailleurs, hein, où tu as cette notion et cette philosophie de réduction des risques. Donc tu as eu beaucoup de liens qui se sont faits. Ça, en termes de convergence des militantismes, c'est pas mal quand même, parce que le fait que ce soit des associations de santé communautaire qui se montent à cette fin-là, ça a permis quand même de créer des ponts avec le ministère de la Santé, avec d'autres associations qui étaient établies plus sur des spécificités comme le sida ou la prise en charge des populations défavorisées ou des sans-papiers, etc. Donc il y a eu quand même pas mal de convergence là-dessus, du coup c'était assez intéressant. C'est un petit peu plus tard est arrivé toute cette offre sur les formations juridiques, etc. Ça s'est arrivé un petit peu plus tard, hein, quand même. Ça s'est pas fait directement au début des années 90.
C'est que c'est un problème qui est plus actuel presque. Enfin, c'est arrivé un peu après. C'est une sorte de style. Enfin, je pense que la drogue, ça a toujours été depuis le premier instant. Voilà, il y a aussi une chronologie.
Il y avait un petit peu moins de problèmes juridiques avant, quand même.
Quoi. Là, le problème se pose tellement que voilà, il faut bien s'armer, quoi.
Voilà, c'est clair. C'est clair. Donc là, je pense que quand on arrive aux formations juridiques et tout, on est déjà dans une étape évoluée de l'association, mais cette histoire de prise en charge communautaire, elle est depuis le début, quoi, en fait. Donc ça, c'est clair, et sur la santé communautaire notamment. Du coup, ça a permis ces liens avec le tissu associatif classique, ce qui était quand même un enrichissement, je pense, pour le mouvement techno, quoi. Enfin, Free Party, en tout cas.
Ouais. Ok, bah nous ne sommes pas seuls. Alors, on pourrait dire ça comme ça, peut-être. Bah écoute, Merci Renard, hein. C'était
oui,
cool,
bah,
c'était
merci à vous pour votre
hyper enrichissant, j'espère que...
Comme d'habitude, question bien posée, j'aime bien votre format, il est cool, c'est toujours un plaisir, et puis l'apéro était magnifique.
Ça, on ne le voit pas, mais...
non, je le goûte bien. Okay. Parfait, je vous remercie en tout cas pour cet accueil.
Merci à toi. Get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
We'll be right back.
C'était Ling Ling avec son morceau Deep Ling. Enchaînons avec la musique du Fou des Bois de Bill Hicks.